de cette carte. Si parfois, à cause d'une décision de Dieu, les éléments se répandent en leur terreur de façon désordonnée, ils apportent des châtiments qui font périr le monde et les hommes. Le feu est comme une lance, l'air comme un glaive, l'eau comme un bouclier, la terre comme un javelot, appelé à châtier les hommes. En effet, les éléments sont soumis à l'homme et ils remplissent leur fonction en tenant compte de l'action des hommes. En effet, lorsque les hommes s'affrontent entre eux et dans les combats, des scènes d'épouvante, la haine, l'envie et tous les péchés qui les opposent, alors les éléments se transforment en leur contraire, chaleur, froid, débordement immense, et inondation. Et cela vient du plan primitif de Dieu, car il a été décidé par Dieu que les éléments réagiraient selon l'action et en fonction des actions des hommes, parce qu'ils sont touchés par leur action, puisque l'homme travaille en les éléments et avec les éléments. Et lorsque les hommes sont sur le droit chemin et font le bien et le mal avec mesure, alors les éléments, par la grâce de Dieu, remplissent leurs fonctions selon les besoins de l'homme. Au milieu du cosmos se dresse en effet l'homme, car il est plus important que toutes les autres créatures, lesquelles demeurent dépendantes du monde de l'homme. Bien qu'il soit certes petit de taille, il est cependant puissant par la force de son âme. Sa tête est dirigée vers le haut, et ses pieds s'appuient sur une fondation solide. Il peut donc mettre en mouvement aussi bien les choses les plus élevées que les choses les moins élevées et les plus basses. Saint Hildegarde écrivait les poèmes Inventa les harmonies nouvelles, les liturgies, les mélodies qu'elle a retrouvées après les avoir entendues d'en haut, dans l'harmonie des éléments et dans les harpes sonores de la Sainte Vierge Marie, aurore du salut. L'aurore du salut qui est Marie découvra ce que le serpent étouffait dans la femme. Les vertus de Marie qui sont comme un parfum des plus suaves. Le serpent veut étouffer dans la femme la chasteté de Marie. Marie possède de l'intérieur chacune des femmes, elle les habite. Mais le serpent vient étouffer la matière de sainteté qui sont en elle. Dans ce poème, la symphonie que j'ai entendue compare Marie à l'arbre de vie. Salut, tige verdoyante, poussée au grand vent de l'appel des saints. Lorsque vint le temps de ta floraison, ce fut salutation en tes rameaux. La chaleur du soleil se déversait en toi comme un baume de senteur, car tu faisais fleurir une fleur de beauté qui redonnaient leur parfum aux splendeurs à tous les arômes évanouis. Et ils furent tous d'éclat et de fraîcheur. Le ciel répandit sur l'herbe sa rosée, la terre entière se réjouit, car ses entrailles produisaient le blé. Et les oiseaux du ciel en elle avaient leur nid. Puis, elle se fit nourriture pour les hommes et grande joie pour les convives. Ainsi, vierge de douceur, nulle ne joie, aucune joie ne manque en toi. Tout cela, Ève l'a méprisé, mais à présent, louange au Très-Haut, daigne Marie nous délivrer de notre goût du mal. Ils allaient de leurs pattes malades et domptent sur leur descendance dans le bannissement de la chute. Mais ta voix éclatante s'élève relevant les hommes de la chute, ma fête. Aux tiges verdoyantes, debout dans ta noblesse, comme un aurore à son lever exulte à présent réjouis-toi. Et nous les faibles daigne nous délivrer de notre coutumage. Tends la main vers nous, relève-nous. Alors l'humilité s'exprima à moi, l'humilité reine des vertus, je le déclare. Venez à moi, ô vertu, et je vous enseignerai à chercher la drachme perdue et à couronner l'heureuse persévérance. Et les vertus vinrent à la reine des vertus d'humilité pour proclamer aux reines de gloire la plus douce des ambassadrices. Nous venons volontiers, la charité chantait en brûlant, je suis la charité, fleur aimable, venez à moi, vertu, je vous conduirai dans la radieuse clarté de la branche en fleurs. Et les vertus répondaient, aux fleurs bien-aimées, nous accourons vers toi, brûlantes de désir. Et la crainte de Dieu murmurait, je suis la crainte de Dieu, toute délicate qui vous prépare aux filles bienheureuses à soutenir le regard du Dieu vivant sans mourir. Et les vertus disaient, crainte de Dieu, tu nous es très utile, toute notre attention est de n'être jamais séparée de toi. Alors le diable cria, bravo, bravo, quelle est cette crainte si grande? Quel est ce si grand amour? Où est le combattant? Où est le rémunérateur? Vous ne savez pas qui vous adorez. Et les vertus pouvaient dire à l'horrible serpent, le juge souverain te terrifie. Tu as été englouti dans la guerre avec l'orgueil qui te bouffit. L'obéissance par là, je suis la lumineuse obéissance. Venez à moi, fille de beauté, je vous rendrai à la patrie au baiser du roi. Oh, délicieuse invite, répondre les vertus, il convient que nous venions à toi en grande ferveur. Alors la foi illumina le cœur de sa lumière, je suis la foi, le miroir de la vie, vénérable fille, venez à moi, que je vous montre la source jaillissante. Et les vertus de dire, sereine, contemplatrice, pacifique, contemplative, par toi nous parviendrons à la vraie source, nous avons cette confiance. Alors nous avons pu entendre le bruit de l'espérance. Je suis le doux regard de l'œil vivant qui ne se laisse pas surprendre par une trompeuse d'encœur. Ténèbres désormais, vous ne pouvez plus m'obscurcir. Et les vertus, en écho, lui disant, ô vie vivante et douce consolatrice, tu es victoire des nécroses de la mort. Et tu ouvres d'un regard les portes célestes et éternelles. Et c'est là que la chasteté put murmurer. Ô virginité, tu te tiens dans la chambre du roi, comme tu brûles doucement lorsque le roi t'étreint, lorsque le soleil t'éclaire, jamais ta noble fleur ne tombera aux nobles vierges, jamais la nuit n'étendra son ombre sur ta fleur fanée. Et les vertus s'ouvrirent dans la chasteté virginale. La fleur des champs tombe sous le vent, disent-elles, la pluie l'efface, mais toi, virginité, tu demeures dans les symphonies des habitants célestes, tu es la douce fleur qui ne se fane jamais. Alors l'amour divin cria, une voix inexprimable, je suis la porte d'or fixée au ciel. Celui qui me franchit n'éprouvera jamais la mère révolte de l'esprit. La mère révolte spirituelle. Et la vertu, elles lui disent, ô amour divin, fille de roi, tu te livres toujours aux étreintes que le monde fuit sans cesse. Quelle douceur a ton amour dans le Dieu souverain. J'aime les mœurs simples qui ne connaissent pas les œuvres de la honte. Je regarde sans cesse le roi des rois. Je l'entoure, je l'étreins des plus grands honneurs. Ô compagne angélique, tu es richement parée pour les noces royales. La pudeur s'exprima, puis la miséricorde. Quelle amertume dans cette dureté du cœur qui ne recule pas dans les esprits en soutenant la douleur de la miséricorde. Moi, je veux tendre la main à tous ceux qui souffrent. Et les vertus lui disent, ô digne mère des pèlerins, tu les relèves sans cesse et tu verses ton baume, ton parfum sur les pauvres et les faibles. Et la victoire cria, je suis la victoire, la guerrière rapide et courageuse, et je combats la pierre à la main, j'écrase l'antique serpent de la clairvoyance, de la patience et l'humilité reconnue aux filles d'Israël. Dieu vous a éveillé sous l'arbre de la vie. Vous vous rappelez aujourd'hui le moment où il fut planté. Réjouissez-vous en moi, fille de Sion. Oh, ce grand miracle, dans la forme soumise et féminine, le roi pénétrait. Et Dieu l'a fait, il l'a créé parce que l'humilité s'élève au-dessus de tout. Oh, cette grande félicité, là, dans cette forme, car le mal qui a coulé de la femme ensuite la lavait. Et tous les parfums des vertus, les parfums les plus suaves, elle les a composés, donnant au ciel la plus grande parure que le trouble dont elle avait troublé la terre. Salut à toi, fille généreuse, glorieuse et intouchée, immaculée, chasteté, prunelle, de virginité, matière de sainteté et plaisir de Dieu. Car cet épanchement d'en haut est descendu en toi, et le Verbe d'en haut en toi revêtu la chair. Toi, le lys blanc que Dieu regardait avant toute créature, ô la plus belle et la plus douce, comme Dieu se plaisait en toi, lorsqu'en toi il déposa la caresse de son feu, et qu'ainsi son fils fut nourri de ton lait. Et ce fut la joie de tes entrailles, la symphonie du ciel, résonnant pour toi, car vierge, tu portais le Fils de Dieu dans l'éclat en Dieu de ta virginité. Et ce fut la joie de tes entrailles, comme l'herbe, comme la rosée descend. Ce fut qu'elle revertit, ainsi fut fait en toi, mère de toute joie. Qu'à présent, l'Église tout entière soit de joie brillante, de bruissement, d'harmonie, en l'honneur de la Vierge très douce, en l'honneur de Marie la Louange, de l'Enfant en Dieu. Ô en elle, Esprit Saint, vivifiant et mouvement de tout, et racine en toute créature, purifiant tout de l'impureté, passant les fautes, soignant les blessures. Tu répands ta vie ainsi par elle, éclat de vie, éloge suscitant, tu ressuscites tout. Après le péché originel, la bile était comme en Immaculée Marie, non pas source d'amertume, mais comme un cristal étincelant. Le péché originel a eu des conséquences physiologiques avec la parole d'Hildegard, la voix dit auparavant, la bile était comme un cristal étincelant. Et le péché l'a fait virer, l'a fait devenir noir. entraînant des désordres organiques et des maladies. Chaque péché, chaque habitude de péché, chaque vice engendre davantage d'opacité et de bile noire et favorise les maladies. L'immaculée la rend transparente comme un cristal d'étincelle. C'est que le corps malade alourdit l'âme et contriste l'esprit, et réciproquement, l'âme pécheresse obscurcit le corps et le rend malade. C'est donc avec la création toute pure et toute parfaite que nous pouvons guérir le corps en recevant la vie de la Sainte Trinité une fois encore. Certes, la médecine des éléments, des infusions, des pierres précieuses, des ligaments que Dieu a disposés dans la création peuvent guérir l'homme, mais cela ne suffit pas. L'homme resterait inachevé, sa joie resterait incomplète. Il faut aussi guérir l'âme du péché. C'est pour cela que chacun doit coopérer à la grâce divine du soleil rédempteur et s'efforcer de pratiquer le bien et d'écarter l'aquilon et le mal. La venue du Christ dans l'incarnation et sa mort sur la croix ont rendu visible l'amour de Dieu et engendre le retour au Père dans l'Esprit Saint. C'est pourquoi nous cultiverons dans les éléments, dans la vérité de notre âme, nous cultiverons toutes les vertus et nous combattrons les vices. Je vais vous lire une chose sur au moins un animal. Pendant qu'on mange, on prend des choses faciles. Le mouton, mâle ou femelle, est froid, mais plus chaud que le bœuf. Il est de nature simple et humide, et n'a ni amertume ni méchanceté. Sa chair est bonne à manger pour les hommes, qu'ils soient bien portants ou malades. Si quelqu'un toutefois a le corps tout affaibli et des veines fragiles et tièdes, il prendra du suc de la chair de mouton et du jus dans lequel on en a fait cuire. Il le boira et mangera un peu de cette chair. À mesure qu'il reprendra des forces, il en mangera son appétit, si cela lui convient, mais pour les anorexiques. La chair est bonne à manger en été, parce que la chaleur la réchauffe. En hiver, en revanche, elle est froide et ne vaut rien pour la nourriture. On peut manger de son foie en abondance, cela diminue le flegme et débarrasse l'estomac de sa fétidité. Si on tousse et qu'on a beaucoup de peine à inspirer, à expirer, et qu'on en souffre, il faut manger du poumon de mouton, on se portera mieux. Mais si une femme a la matrice froide et inapte à la conception, elle prendra une matrice de brebis ou de génisse, qui n'a encore jamais été gravide et qui ne l'est pas. Elle la fera cuire avec du lard et d'autres viandes grasses qu'elle mangera quand elle doit s'unir à son époux et le plus souvent possible. Et elle concevra facilement, si Dieu le veut. Car c'est par la volonté de Dieu que bien souvent la puissance d'engendrer est enlevée aux humains, s'ils se sont éloignés de l'agneau. Quant aux peaux de mouton, elles sont bonnes pour les vêtements de l'homme parce qu'elles ne lui apportent ni orgueil, ni luxure, ni maladie, comme le font les peaux des autres bêtes. Mais si vous avez des peaux de chèvre, c'est pourquoi Dieu a donné à Adam un vêtement de peau de mouton. Et si on souffre de fièvre quotidienne, tierce ou quarte, de quelque espèce qu'elle soit, il faut prendre une toison de mouton ou de bélier dans son cuir. Et sur la partie qui était en contact avec la peau du bélier, il faut faire une légère friction avec de la graisse de brebis, légèrement chauffée. Puis réchauffer le tout devant le feu, et lorsque la maladie épuise cet homme par le froid, il faut lui mettre cette toison sur l'estomac, sur la poitrine et les épaules, de façon qu'il se réchauffe et s'endorme. À répéter chaque fois que la fièvre le fatigue, il sera guéri. Et il faudrait faire la théologie, bien sûr, de ce texte, pour voir ce que représente la brebis, l'agneau, le bélier, la chaleur, le cuir, la toison. Dans le bélier, dans l'agneau et dans la brebis. Et si vous le prenez séparément, vous n'avez rien.
Ah ouais. Le bélier qui se trouve dans le corps, dans le grillage. L'agneau est volé.
Je vais vous donner une autre chose parce que je voudrais quand même vous avez entendu au moins une fois que c'est bien d'avoir. Il y a une plante qui est vraiment très sympathique. Moi, ça me touche parce que j'ai toujours été très touché quand j'étais enfant par les fougères. Les fougères avec ses feuilles, puis des spores et des sporanges. La fougère est tout à fait chaude et sèche et contient assez peu de sucre. Mais elle a beaucoup de vertus analogues à celles du soleil. En effet, de même que le soleil illumine ce qui est obscur, de même, elle met en fuite les apparitions fantastiques. C'est pourquoi les esprits malins la détestent. Dans les lieux où elle pousse, le diable exerce rarement ses sortilèges. Et elle évite et fuit les maisons et les lieux où se trouve le diable. Là où elle pousse, la foudre, le tonnerre, la grêle tombent rarement. Et la grêle tombe rarement dans les champs où elle pousse. Ouais, en Sologne, c'est rempli de fougères. L'homme qui emporte sur lui évite les sortilèges et les incantations des démons, ainsi que les paroles et autres visions diaboliques.
C'est
cher, alors. Voilà. Donc, vous voyez, c'est les pierres. Les pierres, toute pierre contient en soi du feu et de l'humidité. Toute pierre. Le diable abhorre les pierres précieuses, les déteste et les méprise, parce qu'il se souvient que leur éclat s'est manifesté en Lucifer avant qu'il ne soit déchu de la gloire que Dieu lui avait donnée. Car quand Lucifer, qui resplendissait de toutes les pierres précieuses et de toutes leurs vertus, dans la suprême aisance de sa hiérarchie supérieure à tous les autres anges, était revêtu de toutes les pierres précieuses qui devaient s'épanouir dans la création du monde. Et lorsque Lucifer a été déchu, Dieu a retiré cet ornement des pierres précieuses de Lucifer. Et c'est ainsi qu'il est tombé dans la tourbe de l'Aquilon et dans le vide. Voilà pourquoi sa jalousie abhorre les pierres précieuses et les déteste. Et même il les méprise. Il a méprisé la matière. Il se souvient que leur éclat s'est manifesté en lui avant qu'il soit déçu de la gloire que Dieu lui avait donnée et qu'il l'a perdue. Lui, le prince de toutes les vertus de ces pierres, admirables et aussi de leur chaleur et aussi de leur feu et aussi de leur humidité. De l'amour dont elles sont potentiellement le réceptacle et la capacité, et aussi de la grâce de son réceptacle et la capacité. Et aussi parce qu'un certain nombre de pierres précieuses naissent du feu, qui est l'élément de son châtiment. Non seulement parce qu'il l'a perdu, mais aussi Parce que le feu qui est dans les pierres, le sang, effectivement, au lieu de faire sa gloire, ces pierres lui appartenaient en propre. En effet, par la volonté de Dieu, il a été vaincu par le feu et s'est écroulé dans le feu, tout comme il est vaincu par le feu du Saint-Esprit lorsque les hommes, grâce au premier souffle de l'Esprit-Saint, sont arrachés du fond de sa gueule. Trois vertus sont dans la pierre, dans la flamme, et trois dans le Verbe. Comment ? Dans la pierre est une vertu d'humidité, une vertu de palpabilité et une force enflammée de feu, une force ignée. Ignis, ignis, se traduit par feu en latin. Elle a la vertu d'humidité pour qu'elle ne se dissolve pas et ne se diminue pas. Elle est palpable au toucher pour qu'elle serve à la défense et à l'habitation. Elle a une force de feu, elle est une force ignée pour qu'elle s'échauffe et se consolide par sa dureté. Sa force humide indique que le Père, vous l'avez vu en commentant l'Apocalypse, la pierre précieuse, présente toujours la paternité glorieuse en Saint-Joseph. La paternité glorieuse de Dieu le Père en Saint-Joseph. Et elle le dit aussi, sa force humide indique que le Père, qui n'est jamais aride et n'a pas de borne à sa vertu, la vertu de palpabilité désigne le Fils qui, né d'une vierge, peut être touché et saisi, et la vertu du feu brillant démontre le Saint-Esprit qui embrase et illumine le cœur des hommes. C'est pourquoi ces trois vertus sont dans la pierre, trois dans la flamme et trois dans le Verbe de Dieu. Comment cela ? Quand vous voyez comment cela, Saint-Hildegarde, ça veut dire qu'elle entend cette phrase qui sort du soleil, du Christ, ou du trône, ça vous est. Elle dit, mais comment ça ? Je ne sais pas, si je ne comprends pas ce que ça veut dire. Alors, elle dit, comment ça ? Réponse, de même que l'homme qui attire fréquemment par son corps la vertu humide de la pierre, devient débile et infirme. Ainsi l'homme qui, par l'instabilité de ses pensées, veut regarder témérairement le Père, périt dans la foi. Et de même que par la palpabilité saisissable de la pierre, les hommes construisent leur habitation afin de se défendre contre l'ennemi, ainsi le Fils de Dieu, qui est la pierre véritablement angulaire, devient la demeure du peuple fidèle pour le protéger contre les esprits malins. Mais aussi, comme le feu brillant éclaire les ténèbres et brûle ceux sur quoi il se repose, ainsi le Saint-Esprit écarte l'infidélité, enlevant toute rouille d'iniquité. Et de même que ces trois forces sont dans une unique pierre, ainsi la vraie Trinité est dans une même divinité. Ainsi, comme la flamme dans un même foyer a trois vertus, ainsi un Dieu en trois personnes. Comment cela ? La flamme en effet consiste dans la splendeur de la clarté et dans la force inhérente. Et dans son ardeur ignée, ignis, ignis, elle a la clarté splendide pour briller et sa vigueur inhérente pour montrer sa force et son ardeur ignée afin de brûler. Aussi, dans la splendeur de clarté, considère le Père qui, par bonté paternelle, répandit sa clarté sur les fidèles. Voilà tout ce qu'on doit regarder, contempler, pénétrer, assimiler. Quand on fait le mouvement curatif de guérison pneumatosurnaturelle attachée aux éléments de la pierre. Vous comprenez ? Aussi, dans la splendeur de clarté, considère le Père qui, par bonté paternelle, répandit sa clarté sur ses fidèles. Vous voyez, Saint-Joseph est enseigné, c'est de lui qu'émane la doctrine immaculée. Et dans la vigueur inhérente par laquelle cette flamme montre sa vertu de flamme splendide, reconnaît le Fils. C'est vrai, dans les pierres précieuses, il y a quelque chose de flamboyant si on veut bien regarder à l'intérieur. Reconnaît le Fils qui prit son corps dans le sein d'une vierge et dans lequel la divinité manifesta ses merveilles et dans l'ardeur qui dignait. Considère le Saint-Esprit qui consume d'une manière suave l'esprit des croyants. Mais où ne se trouve ni la splendide clarté, ni la force inhérente, ni l'ardeur ignée, il n'y a pas la flamme. Ainsi, où le Père, ni le Fils, ni le Saint-Esprit n'est honoré, la divinité n'est pas adorée dignement. Donc de même que dans une même flamme, on distingue ces trois vertus, ainsi dans l'unité de la divinité, on comprend trois personnes. De même aussi que les trois vertus sont indiquées dans le Verbe, ainsi la Trinité doit être considérée dans l'unité de la divinité. Comment cela ? Dans le Verbe est le son. D'où exhale toute harmonie musicale, la vertu et le souffle. Mais le son est pour qu'on l'entende, la vertu pour qu'on la comprenne, qu'on la prenne avec nous, le souffle pour qu'il s'actue dans l'accomplissement. Le son indique le Père, qui fait toutes choses par sa puissance incompréhensible. La vertu désigne le Fils, qui est engendré merveilleusement du Père. Le souffle dénote le Saint-Esprit, qui souffle où il veut et consume toutes choses. Mais où le son n'est pas entendu, la vertu ne saurait agir, et le souffle ne pourrait pas s'élever. Et là, le Verbe n'est pas compris. Ainsi le Père, le Fils et le Saint-Esprit ne sont pas séparés l'un de l'autre, mais ils accomplissent leur œuvre dans un parfait accord, dans l'unité. Est-ce que c'est une pierre précieuse ? C'est pourquoi, comme ces trois choses sont dans un seul Verbe, ainsi également la suprême Trinité est dans la suprême unité. Et de même que dans la pierre, la vertu humide naît ni n'agit sans la palpabilité saisissable et sans la vertu de feu ignée, ni la vertu palpable sans la vertu humide et la vigueur innée du feu brillant, ni la force du feu brillant sans la force humide et la force palpable. Et de même que dans la flamme, la splendide clarté naît ni n'agit sans la vigueur inhérente et l'ardeur ignée, ni l'ardeur ignée sans la splendide clarté et la vigueur inhérente. Et de même que sans le Verbe, le son naît ni n'agit sans la vertu et le souffle, ni la vertu sans le son et le souffle, ni le souffle sans le son et la vertu. Mais ils sont indivisiblement unis dans leur œuvre. Ainsi également, les trois personnes de la suprême Trinité résident sans être divisées inséparablement et dans la majesté de la divinité. C'est pourquoi, par exemple, vous prendrez l'émeraude qui pousse tôt le matin au lever du soleil, lorsque ce dernier devient puissant, je vous l'ai déjà dit, mais je vous relis, et amorce sa trajectoire dans le ciel. Le soleil amant. À cette heure, l'herbe est pratiquement verte et fraîche sur la terre, parce que l'air est encore frais et le soleil déjà chaud. Alors les plantes aspirent fortement la fraîcheur en elles, comme un agneau le lait, en sorte que la chaleur du jour suffit à peine pour réchauffer et nourrir cette fraîcheur, pour qu'elle soit fécondatrice et puisse porter des fruits. C'est pourquoi l'émeraude est un remède efficace contre toutes les infirmités et maladies humaines. Parce qu'elle est née du soleil et que sa matière jaillit de la fraîcheur de l'air. Celui qui a des douleurs au cœur, dans l'estomac ou un point de côté, qu'il porte une émeraude pour réchauffer son corps. Il s'en portera mieux. Mais si ses souffrances empirent tellement qu'il ne puisse plus s'en défendre, alors il faut qu'il prenne immédiatement l'émeraude dans la bouche pour l'humidifier avec sa salive. C'est avec de la salive que tu as créé, attends. Hein. C'est en s'unissant au Père dans les trois vertus qui sont indiquées du Verbe, du Père et de l'Esprit Saint que nous prenons notre salive pour que ce soit cette création qui, à travers le concret des éléments de la pierre donnés à celui qui a autorité sur tous les éléments, dans le soleil, dans le souffle et dans le feu, et dans l'air à queue. La salive réchauffée par cette pierre doit être alternativement avalée, recracher, et ce faisant, la personne doit contracter. En faisant cela, la personne doit contracter et dilater son corps. Les accès subis de la maladie vont immédiatement faiblir. Presque faudrait apprendre par cœur, hein, le passage où on a parlé de la pierre avec les éléments de palpabilité pour signer, etc. Pour se rappeler, conjonction par rapport à la présence du Père, du Verbe, l'Esprit Saint. Parce qu'il ne faut pas séparer ce que tu as uni. Il ne faut pas séparer l'intégration, l'imprégnation, la compréhension, l'assimilation du Père, du Fils, du Saint-Esprit et leur vertu propre à chaque, dans chaque élément de leur potentialité exprimée dans la matière primordiale que Lucifer, dont Lucifer a été dépouillé. Et c'est parce que Lucifer en a été dépouillé qu'avec les éléments de la création, nous prenons ces éléments avec leurs vertus innées, avec leur souffle, que nous pourrons être au-dessus de Lucifer. Ce qui est dépouillé de ses vertus qui sont supérieures à sa puissance. Ce qu'elle explique très bien, mais on ne peut pas tout lire, évidemment. Je pense que, de toute façon, ces 3-4 jours sont une retraite, une méditation, mais en même temps un appât pour que tout le monde lise Saint-Hildegarde. Hein. Vous ne pouvez pas célébrer la messe, mais entre 1h et 3h du matin, vous pouvez célébrer la prière curative, prière angélique de l'Apocalypse, et célébrer la messe de Saint-Hildegarde pendant 1 heure.
Oui, non, ça prend plus qu'une heure.
De quoi ?
Tous ensemble, c'est déjà 1 heure là.
C'est 2 heures, ça dure 2 heures. Mais là, parce que je rajoute le serment, ça fait 1 heure de plus. Donc on a fait 3h30 parce que j'ai fait une homélie 3 heures, d'une heure et demie là. Et normalement, c'est 2 heures, pas plus.
Oui, c'est la messe ou la collective.
2 heures, pas plus. Marie, tu t'agites pour bien des choses. Tu t'agites pour bien des choses, tu t'inquiètes pour bien des choses. Une seule est nécessaire.
Vais dans ma chambre, Marie.
Hein?
Vais dans ma chambre, Lunette.
Comment ça?
sais pas, mais notre désir dans la chambre est contre toi. Secrètement dans ta chambre. Viens, assieds-toi.
À ce moment de rénovation, la justice et la paix seront rétablies par des décrets si nouveaux et si peu attendus que les peuples ravis d'admiration confesseront hautement que rien de semblable ne s'était vu jusque-là. Cette paix du monde avant les derniers temps, figurée par celle qui précéda le premier avènement du Fils de Dieu, sera néanmoins contenue. L'approche du dernier jour empêchera les hommes de se livrer pleinement à sa joie, mais ils s'empresseront de demander au Dieu Tout-Puissant qu'il les comble de toute justice dans la foi catholique. Les Juifs se joindront alors aux chrétiens et reconnaîtront avec allégresse l'arrivée de celui qu'ils niaient jusque-là être venu en ce monde. Cette paix arrivera au comble et portera à la perfection la paix figurative qui régna au premier avènement du Fils de Dieu. Alors surgiront en effet des saints admirablement revêtus du don de prophétie. Et l'on verra une surabondante floraison de tout germe de justice dans les fils et les filles des hommes, comme il a été annoncé au nom du Très-Haut par le prophète son serviteur, lorsqu'il dit « En ces jours-là, le germe du Seigneur s'épanouira. » Le Tzikaron, Mashiach, c'est la mémoire du Christ, le germe. Dans toute sa magnificence et dans sa gloire, la terre verra se produire une sublime perfection. Et l'allégresse régnera parmi les enfants d'Israël en possession de leur Rédempteur. Dans ces jours de bénédiction du sein d'une atmosphère très suave, s'épancheront... C'est extraordinaire quand même, hein? C'est dans quelques semaines quand même. Hein? L'atmosphère, la contemplation sera suave. Sinon, elle est aride aujourd'hui. Hein. Elle est pleine de bile noire. Hein. Elles la couvriront de verdure et de fruits parce que, voyez, on voit les fruits. La verdure, c'est la grâce. Et les fruits, c'est le fruit du sacrement. La grâce engendre les sacrements. Et les sacrements engendrent les fruits des sacrements. Donc, c'est la verdure. On vit beaucoup moins de la grâce aujourd'hui. On reste fidèle, accroché au sacrement. C'est ça, Saint Pie V. Mais la verdure et les fruits, du moment que je ne suis pas en état de péché mortel, c'est pas sûr, hein, si tu es excommunié. Si... C'est autre chose. Ils ne sont pas excommuniés, attention. Hein. Pas de bonne Noël. Hein. Ils la couvriront de verdure et de fruits parce que les hommes s'adonneront alors à toutes les œuvres de justice, Saint-Joseph. Tandis que dans les jours précédents, si désolés par les mœurs efféminées du monde, sodomie, la pédérastie, les éléments violentés par les péchés des hommes auront été réduits à l'impuissance de rien produire de bon. Des princes rivaliseront de zèle avec leur peuple pour faire régner partout la loi de Dieu. Ils interdiront l'usage des armes de violence. Ceux qui s'en serviront seront punis par le fer et mis au ban des nations. Comme les nuées féconderont alors la terre par leur douce rosée, ainsi l'Esprit Saint répandra avec abondance sur les peuples, par la rosée de sa grâce, science, sagesse et sainteté. Tous seront aussi transformés en hommes nouveaux. On verra alors comme un été spirituel répondre à l'influence de la vertu d'en haut. Toutes choses seront rétablies dans la vérité. Les prêtres et les religieux, les vierges, les âmes uniquement vouées à Dieu, les différents ordres de la société persévéreront dans la voie droite de la justice. Vous avez du bien. Saint-Esprit, parlez. Sans plus se soucier de l'abondance et de la superfluité des richesses. Parce que par la grâce de Dieu, la vie spirituelle montera à la hauteur de l'abondance des biens de la terre. Les éléments de la création et la hauteur de la grâce de Dieu vont se conjoindre ensemble. C'est pour ça que Saint Hildegarde, c'est le livre de chevet. La vérité apparaîtra sans ombre, la sagesse manifestera ses trésors d'allégresse et de vertus héroïques, Tous les fidèles s'y considéreront comme dans un miroir de salut, de rédemption universelle. Et en même temps, les saints anges, que l'infection des iniquités du monde n'éloigne que trop souvent de la société des hommes, viendront se joindre familièrement à eux, charmés qu'ils seront de ce renouvellement et de la sainteté de leur vie. Cette joie des justes arrivée comme en vue de la terre promise et soutenue par l'espérance des récompenses éternelles, cependant, ne sera pas absolument parfaite. Parce qu'ils verront clairement que le jour du jugement se rapproche. Mais les juifs, les hérétiques, ne mettront pas de borne à leur transport d'allégresse et de joie. Enfin, s'écrieront-ils, l'heure de notre propre justification est arrivée. Les liens de l'erreur sont tombés sous nos pieds. Nous avons rejeté loin de nous le fardeau si lourd et si attardant de notre prévarication. La foule des fidèles sera notablement accrue par le flot des païens. Entraînés par tant de splendeur et d'abondance après leur baptême, ceux-ci se joindront aux croyants. Ils proclameront le Christ à toutes les nations, à toutes les multitudes, à toute la terre, comme au temps des apôtres. Cependant, en ce jour, vous vous rendrez à notre appel, sous les rayons de Marie, Stella, Maris. On la salue. Et il faudra apprendre à saluer, parce qu'il faudra bien échapper à ce qui va arriver tout de suite après. Cependant, ces jours même, ajoute saint Hildegarde, la justice et la piété auront parfois encore leurs moments de fatigue et de langueur, mais pour reprendre bientôt leur force première, l'iniquité reprendra, relèvera parfois la tête, tout en étant immédiatement à nouveau terrassée. La guerre, la famine, la peste, le fléau et la mort exerceront encore leur ravage, mais s'évanouiront immédiatement, sans peser longtemps sur le monde, apparaissant ça, là, aujourd'hui, disparaissant demain. Eh oui, parce qu'on aura autorité, tout de suite anéanti. Ça va énerver l'Antichrist, quoi. Au bout de 20 ans, il y en aura marre. La fidélité à la loi de Dieu, on vient de l'entendre, nous conduira seul à ces jours d'incomparable félicité que l'univers entier appelle de tous ses désirs, mais que trop de passions effrénées ne cessent de refouler loin de nous. Portons la guerre sur le terrain des passions. Et toute paix est à vous. Dieu a mis 6 jours à faire ses œuvres. Comprenez-le, il s'est reposé 7e jour. Ces 6 jours représentent les 6 premiers âges du monde. Et Dieu a montré au monde de nouveaux prodiges dans le 6e âge. De même qu'il a couronné ses œuvres dans le 6e jour de la création. Maintenant, le monde se trouve au 7e âge. C'est depuis 9 mois, hein? Parce que ce cri maintenant, c'est pour que l'humanité, d'octobre 2012, l'entende. Qu'elle puisse naître à sa compréhension, 9 mois après, en juillet 2013. Voilà ce que le pape a décidé. Septième âge qui sera suivi des derniers jours. Les prophètes ont parlé, me dit le Seigneur, et leurs oracles ont eu leur accomplissement. Mon message a exécuté mes volontés dans le monde, et l'évangile, mon Messie, peut-être a exécuté mes volontés dans le monde, et l'évangile a été prêché à tous les hommes. À présent, la foi des peuples s'affaiblit. Et donc, après l'avertissement, l'évangile est proclamé partout, dans les confins des nations. C'est le monde nouveau. C'est le règne du Sacré-Cœur. Mais ce n'est pas encore l'élévation de l'Antichrist. Pardon, je ne bouge pas. À présent, la foi des peuples s'affaiblit. Les hommes pratiquent mal l'évangile, on s'ennuie de la lecture des grands ouvrages, fruit de longs travaux des plus saints docteurs, Et on a du dégoût pour la nourriture vivante des Saintes Écritures. Mais élevez-vous donc avec énergie, mes choisis, mes élus. Faites en sorte de ne pas vous laisser tomber dans les pièges de la mort. Levez haut l'étendard victorieux de mes enseignements et de ma doctrine. Suivez les traces de celui qui vous a montré les voies de la vérité, qui, après s'être fait homme, s'est manifesté au monde dans une grande humilité. La tête ne doit pas être sans corps et sans membres. La tête de l'Église, c'est le Fils de Dieu. Le corps, les membres, c'est l'Église et ses enfants. L'Église n'est pas encore, quant à ses enfants, arrivée au dernier degré de sa plénitude. Elle y parviendra quand le nombre des élus sera complet, ce qui aura lieu au dernier jour. Ce n'est qu'après les cinq premiers âges du monde que j'ai fait voir aux hommes des prodiges célestes. De même que dans les cinq premiers jours de la création, j'ai fait toutes les créatures soumises à l'homme avant l'homme que j'ai créé le sixième jour. Mon Fils est venu au monde quand le jour de la durée des temps se trouvait au moment correspondant au temps qui s'écoule depuis l'heure de Non jusqu'à celle de Vêpre. Non, c'est la neuvième heure du jour, c'est-à-dire 3 heures d'après-midi. Et oui, parce que la première heure du jour, c'est 6 heures, prime, d'accord, l'aude. Et que chaque heure dure 3 heures. Et 3 heures, c'est 1 heure. Parce que le temps est rythmé en fonction aussi de la durée de la Très Sainte Trinité dans le temps des éléments qui se répandent. Mêlant l'Église primordiale à l'Église du jour et à l'Église des temps futurs. Les trois sont une seule Église dans l'accomplissement des temps. Voilà pourquoi les heures de l'Église sont canoniales. Et ceux qui s'y plient sont dans l'ordre de Dieu. Et ceux qui ne s'y plient pas sont dans le désordre. Si tu vis au rythme de sexte, non, vêpre, compli, matine, prime, l'aude, tierce, sexte, alors c'est que tu n'es pas soumis à l'aquilon. Ce que disait mon vieux père spirituel. C'est nous, nous sommes rentrés dans les ordres. Nous menons une vie ordonnée. Et vous ? Vous êtes dans une vie désordonnée. Mais vous n'êtes pas obligé. Mais vous pouvez quand même, hein, pas compliqué. C'est pour ça que nos grands-parents mettaient des pendules, hein, et que ça sonnait toutes les heures. C'était pas du tout pour savoir quelle heure il était. C'était pour pouvoir célébrer l'Angélus de l'aude, l'Angélus de midi et l'Angélus du soir. Mon Fils est venu au monde quand le jour de la durée des temps se trouvait au moment correspondant au temps qui s'écoule depuis l'heure de Non jusqu'à celle de Vêpre. Depuis 3 heures du soir jusqu'à 6 heures, ça veut dire. C'est-à-dire lorsqu'à la chaleur du jour commence à succéder la fraîcheur de la nuit. En un mot, mon Fils a paru dans le monde après les 5 premiers âges. Et lorsque le monde était déjà presque dans son déclin. Nous sommes dans le temps de la grâce du Christ, c'est depuis 2000 ans. Le Fils de perdition, l'Antéchrist, qui régnera très peu de temps, 1290 jours, c'est pas beaucoup, 42 mois, 3 ans et demi, c'est rien. C'est rien. C'est une blague. On a autorité sur lui. En plus, on a autorité sur lui. Donc, quelle rigolade. Bon. Sans présomption, parce que si tu fais une présomption, tu es pour lui. Le fils de perdition qui régnera très peu de temps viendra à la fin du jour, de la durée du monde, au temps correspondant à ce moment où le soleil a déjà disparu de l'horizon. Très joli. C'est-à-dire qu'il viendra dans les derniers jours. Cette révélation, ô mes fidèles serviteurs, mérite votre attention. Vos intérêts vous font un devoir de chercher à la bien comprendre, afin que le grand séducteur ne vous entraîne pas dans la perdition, pour ainsi dire, sans que vous vous en rendiez compte. Armez-vous à l'avance et préparez-vous au plus redoutable de tous les combats de la terre. Après avoir passé une jeunesse licencieuse au milieu d'hommes très pervers et dans un désert où elle aura été conduite par un démon déguisé en ange de lumière, la mère du fils de perdition le concevra et l'enfantera sans en connaître le père. La Vierge à la Salette nous a dit que ce père est évêque et successeur des apôtres. D'un autre côté, elle fera croire aux hommes que son enfantement a quelque chose de miraculeux, vu qu'elle n'a point d'époux et qu'elle ignore, dira-t-elle, comment l'enfant qu'elle a mis au monde a été formé dans son sein. Et le peuple la regardera comme une sainte et la qualifiera de ce titre. Une conception par... Saint-Michel Arcan, ça a du poids, hein. Sans Skio. Saint-Évigarde, 1111. Première révélation, 3 ans et demi. Que le trône de Dieu ne s'effondre pas sous vous, mais qu'il vous élève. Vous moquez de moi? Vous me trouvez ridicule, peut-être? Elle me trouve ridicule.
Moi, je pense que vous me
rien, tout ce qui peut sortir d'un ordinateur, c'est... Hein? Merci Google. Et oui, là, j'étais en train de vous dire, justement, c'est pour ça que ça commence à s'effondrer. Jama, comment sera-t-il conçu l'Antichrist? Jama. Affreux, hein? C'est horrible. Le peuple la regardera comme une sainte et la qualifiera de une fausse vierge. Le fils de perdition est cette bête très méchante, comme Saint Jean l'appelle dans l'Apocalypse, qui fera mourir ceux qui refuseront de croire en lui. Qui s'associera les rois, les princes, les grands, les riches, qui méprisera l'humilité et n'estimera que l'orgueil, qui enfin subjuguera l'univers entier par des moyens diaboliques. Il paraîtra agiter l'air, la faire descendre le feu du ciel, produire les éclairs, la tonnerre, la grêle, renverser les montagnes, dessécher les fleuves, dépouiller la verdure des arbres, des forêts, et la leur rendre ensuite. Ça veut dire qu'il aura dépassé la 5e et la 6e demeure. Il paraîtra aussi rendre les hommes malades, guérir les infirmes, chasser les démons, et pour cause, et quelquefois ressusciter les morts, faisant qu'un cadavre remue comme s'il était en vie. Cependant, cette espèce de résurrection ne durera pas, jamais au-delà d'une petite heure, pour que la gloire de Dieu n'en souffre pas. Il gagnera beaucoup de peuples en leur disant « Vous pouvez faire tout ce qu'il vous plaira. » Renoncez au jeûne. Il suffit que vous m'aimiez, moi qui suis Dieu. Il leur montrera des trésors et des richesses. Il leur permettra de se livrer à toutes sortes de festins, comme ils le voudront. Il les obligera à pratiquer la circoncision et plusieurs observations judaïques. Et il leur dira, celui qui croit en moi recevra le pardon de ses péchés et vivra avec moi éternellement. Il rejettera le fond du baptême et de l'évangile. Il tournera en dérision tous les préceptes que l'Église a donnés aux hommes de ma part. Ensuite, il dira à ses partisans, frappez-moi avec un glaive, placez mon corps dans un linceul sans tache. Jusqu'au jour de ma résurrection, on croira lui avoir réellement donné la mort et de son côté, il fera semblant de ressusciter. Après quoi, se composant un certain chiffre, qu'il dira être un gage de salut, il le donnera à tous ses serviteurs comme un signe de leur foi en lui et il leur commandera de l'adorer. Quant à ceux qui, par amour pour mon nom, refuseront de rendre cette adoration sacrilège au fils de perdition, il les fera mourir au milieu des plus cruels tourments. Mais j'enverrai mes deux témoins, Enoch et Élie, que j'ai réservés pour ce temps-là. Leur mission sera de combattre cet homme du mal, de ramener dans la voie de la vérité ceux qu'il aura séduits. Donc la contemplation immaculée de Marie, Élie, et la contemplation incarnée de Joseph, Enoch, dans le miracle des trois éléments. Ils auront la vertu d'opérer miracles les plus éclatants dans tous les lieux où le fils de perdition aura répandu ses mauvaises doctrines. Cependant, je permettrai que ce méchant les fasse mourir, mais je leur donnerai dans le ciel la récompense de leur transformation, de leur travail. Quand le fils de perdition aura accompli tous ses desseins, il rassemblera ses croyants, il leur dira qu'il veut monter au ciel. Au moment même de cette ascension, un coup de foudre le terrassera et le fera mourir. D'un autre côté, la montagne où il se sera établi pour préparer son ascension sera à l'instant couverte d'une nuée qui répandra une odeur de corruption insupportable et vraiment infernale. Ce qui, à la vue de son cadavre couvert de pourriture, ouvrira les yeux à une immensité innombrable et grande de personnes et leur fera avouer leur misérable erreur. On le verra à la télévision. Après la triste défaite du fils de perdition, l'épouse de mon fils qui est l'Église brillera d'une gloire sans égale et les victimes de l'erreur s'empresseront de rentrer dans le bercail. Quant à savoir en quel jour, après la chute de l'Antéchrist, le monde plus tard doit finir, l'homme ne doit pas chercher à le savoir. Ni le connaître, il ne pourra pas y parvenir. Le Père s'en est réservé le secret. Homme, ô homme, préparez-vous au jugement. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.